7h47. Bonjour Thomas Gadisseux.
Bonjour à toutes et tous.
Il va négocier le budget avec les autres vice-premiers. Le libéral David Clarinval est notre invité ce matin.
Oui, un nouveau conseil des ministres restreint est attendu d'ailleurs dans quelques heures ce matin pour continuer cette négociation sur le budget de l'an prochain. Le Premier ministre hier a fixé le cadre de l'enveloppe à trouver. On ne sait toujours pas où on va trouver ces milliards.
5h, 10h. Matin première.
Bonjour David Clarinval.
Bonjour.
Le Premier ministre estime qu'il faut faire un effort de 10 milliards. Vous, OMR, vous avez pointé l'objectif de 20 milliards. Ça veut dire que ce ne sera pas suffisant pour vous ?
Bah écoutez, l'objectif est encore en discussion. Si on prend une stratégie qui est conforme à la demande européenne, on peut avoir un effort qui ira jusqu'à 20 milliards. Mais c'est vrai que d'autres manières d'évaluer les choses nous portent vers 10 milliards. En tout cas, ce que nous, on propose, c'est un mix, puisqu'on veut, d'une part, respecter les objectifs européens sans casser la croissance du pays. Parce que si l'on casse la croissance du pays, alors on va avoir un impact notamment sur l'économie, mais aussi sur l'emploi. Donc ce que l'on propose, c'est un mix avec des dépenses en moins et une stratégie de croissance pour doper la remise à l'emploi.
Donc ça veut dire, pour comprendre, il faut trouver 10 milliards pour assainir les finances de l'État, selon vous, mais il faut trouver des milliards en plus pour des nouvelles politiques. C'est ce que vous mettez sur la table, OMR.
C'est ce qu'on appelle la stratégie de croissance. Ce sont des mesures qui vont doper l'économie, qui vont doper la croissance. C'est par exemple anticiper la réforme fiscale pour donner plus de pouvoir d'achat aux citoyens dès l'année prochaine. C'est par exemple diminuer les cotisations sociales pour permettre aux entreprises d'engager plus de travailleurs. C'est par exemple avoir une norme énergétique plus ambitieuse, c'est-à-dire diminuer les coûts de l'électricité pour les entreprises énergivores pour qu'elle soit moins handicapée par rapport aux pays avoisinants. Donc c'est à la fois des mesures d'économie budgétaire, mais aussi des mesures qui dopent la compétitivité, qui dopent le pouvoir d'achat pour ne pas que la croissance économique du pays diminue.
David Clarinval, ça veut dire des cadeaux aux entreprises, ça veut dire des cadeaux aux citoyens avec une réforme fiscale déjà annoncée. Tout ça, ça va coûter, c'est Saint-Nicolas avant l'heure en fait. Vous allez devoir trouver des sous alors qu'on ne sait toujours pas comment on va combler les trous budgétaires, notamment avec les investissements défense annoncés.
Donc, les chiffres dont j'ai parlé tiennent compte des investissements en défense. Mais par contre, on a évidemment un socle de mesures avec des dépenses en moins. Hein, il y a des efforts possibles.
On voit ça, c'est les 10 milliards à trouver.
On voit très bien qu'il y a des dérapages assez importants, notamment au niveau de la sécurité sociale. Et l'on doit pouvoir, à ce niveau-là aussi, prendre des mesures qui sont utiles. On voit,
par exemple, ça sera quand même compliqué, ces mesures-là, pour essayer de comprendre la stratégie. Ce matin, vous dites au MR, en fait, on va non seulement relancer un train d'économie, mais en plus, on va aller chercher encore de l'argent ailleurs. Est-ce qu'on a, c'est possible pour vous d'aller au-delà de 10 milliards, quoi ?
Ben, ce sera 10 milliards de dépenses en moins, mais aussi une stratégie de croissance pour doper la croissance en même temps. Donc on doit faire les deux en même temps pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a des possibilités de mesures en dépenses en moins. Je vais vous citer un exemple. On a par exemple, et c'est un rapport de l'INAMI qui le dit, donc ce n'est pas moi qui le dis, on a détecté que par exemple, dans les malades de longue durée, il y a un quart des personnes qui sont de faux malades. Ça représente plusieurs milliards d'euros chaque année qui sont donnés à des personnes qui sont en fait en capacité de travailler, qui sont des faux malades, qui ne le font pas.
David Clarinval, donc je dis tout de suite, pose là-dessus.
Ne faisons
pas. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, était vendredi sur notre antenne, il a expliqué que l'échantillon qui a mené à cette étude est un échantillon précis avec des malades qui étaient déjà très éloignés. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble des malades de longue durée. Donc on ne peut pas prendre cette étude comme justement pour extrapoler et dire en fait, il y a un quart des malades de très longue durée qui ne devraient pas y être.
Ben, en tout cas, le rapport de l'INAMI, c'est très clair et Franck le connaît, il l'a lu.
Sur notre antenne, il le dit lui-même.
Oui, évidemment, il y a une partie. Donc d'abord dire nous, les malades, on veut qu'ils puissent se soigner, on veut qu'ils puissent prendre soin d'eux, on veut leur permettre d'être vraiment, de s'occuper de leur maladie, et on ne veut pas embêter les malades, les vrais malades, certainement pas. Mais par contre, l'INAMI détecte, il y a plusieurs catégories, il y a évidemment des malades qui sont malades de manière indéterminée, qu'on ne pourra pas, qui ne sont pas guérissables, donc évidemment que ceux-là, et Franck a raison, on ne va pas y toucher. Mais par contre, il y a toute une série de malades qui sont catégorisés aujourd'hui comme étant malades jusqu'à leur pension, mais qui en réalité, et ça, cette catégorie-là, c'est un quart, certainement, qui peut être mis au travail parce que l'INAMI a détecté qu'ils avaient, ils ne sont pas malades. Donc on doit quand même pouvoir dire les choses et nous, ce qu'on propose, c'est pas c'est une mesure qui est assez simple, c'est simplement de dire, les mutuelles ne font pas leur travail, confions à l'INAMI le contrôle de ces faux malades pour être certain qu'il n'y ait pas d'abus. Tout le monde peut être d'accord sur le fait qu'on ne veut pas d'abus.
La sécurité
sociale, c'est la solidarité de tout le monde.
Et ça, c'est un point important qui provoquera en tout cas du changement. Vous voulez écarter les mutuelles de l'ensemble du processus de la remise au travail des malades de longue durée.
Elles ne doivent plus avoir de rôle à jouer. Dans le contrôle, elles ne doivent plus avoir de rôle. Aujourd'hui, les mutuelles, elles agissent un peu comme un arbitre. Et elles sont à la fois arbitres et joueurs d'un même match de football. Donc ici, on veut qu'elles continuent à être joueurs et donc qu'elles fassent leur job pour accompagner les malades, pour donner les allocations. Mais on veut que ce soit l'INAMI qui contrôle.
Et en quoi ça va améliorer le contrôle d'écarter les mutuelles ? Ça veut dire que vous soupçonnez qu'elles ne contrôlent pas assez ? Pourquoi les écarter ? Ça va améliorer le contrôle.
On a des rapports qui montrent que certaines mutuelles ne contrôlent pas du tout. Donc on a des rapports qui montrent que les mutuelles travaillent certaines mieux que d'autres, mais certaines ne font pas du tout leur job. Et donc c'est là que ça ne va pas. On voit bien qu'il y a un trou dans la raquette. On doit donc permettre qu'il y ait un vrai contrôle. C'est une question de justice sociale. Les personnes qui travaillent, les personnes qui sont réellement malades, elles doivent pouvoir être accompagnées. Or, s'il y a un quart de ces personnes qui ne sont pas malades et qui bénéficient de la solidarité, c'est un vrai problème pour tout le monde.
Au-delà des points politiques, des postures politiques, d'attaquer quand même les mutuelles, c'est ce que vous faites. Il y a la question de l'objectif. En quoi ça va créer, et vous avez évoqué le chiffre, une réduction plutôt de 4 milliards d'économies. Alors, comment, en touchant aux malades, sans toucher les vrais malades, on va faire 4 milliards d'économies ?
Il suffit de regarder les chiffres de la Sécurité sociale. On voit que les malades de longue durée, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année qui sont dépensés. Si on focalise uniquement sur les faux malades, on peut aller entre 1 et 4 milliards assez facilement d'économie. Et donc, c'est quasiment la moitié de l'effort que l'on doit faire au niveau budgétaire. Donc, nous, on dit, plutôt que de taxer, puisqu'on voit que certains veulent taxer, alors que notre pays est déjà le pays le plus taxé du monde, eh bien, il y a des mesures en dépenses et il y a des mesures en stratégie de croissance pour justement relancer la croissance par du plus de pouvoir d'achat, anticiper la réforme fiscale, diminuer les cotisations sociales, faire cette norme énergétique plus ambitieuse, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment à la fois doper notre économie, créer de l'emploi, mais aussi contrôler les abus dans la sécurité sociale.
David Clarinval, nos auditeurs et auditrices réagissent à votre interview. Qui va payer ? À quoi servent les économies ? On va écouter cette question qui a été laissée sur notre répondeur.
Oui, monsieur Clarinval, pensez-vous que, au-delà de toute idéologie, une économie de plus de 10 milliards pour sauver l'État-providence, comme l'appelle le premier du pays, puisse résoudre à elle toute seule le chômage, la santé, l'éducation et avant tout, la confiance que le peuple belge a encore envers les politiques ?
Est-ce que ce train d'économie ne va pas tuer l'économie ? Qui va payer au final ?
Mais non, c'est ce que je viens d'expliquer, il faut faire ces économies. Il y a, vous savez, en chômage, rien que la mesure de limitation du chômage dans le temps, c'est une mesure qui rapporte 2 milliards à terme, chaque année. Donc il y a moyen de faire des économies, je l'ai fait. Vous savez, les réformes, elles sont nécessaires. Le budget est au bord du... On est au bord du gouffre, on est dans une situation qui est aussi difficile que celle que Jean-Luc Dehaene a affrontée à l'époque. Donc on doit se rendre compte dans la situation dans laquelle on est au niveau budgétaire. Je prends l'exemple de la réforme. Moi, j'ai fait la réforme et je fais encore des réformes au niveau du marché du travail.
Ça, c'est acté, ce que vous annoncez aujourd'hui.
Mais ce sont des mesures qui... Eh bien, on doit faire la même chose dans les autres départements qui sont en dérapage
budgétaire. Quand vous parlez d'une stratégie de croissance, pour dire à un moment donné, il faut casser justement cette dynamique éventuellement des économies qui va tuer la croissance et les pouvoirs d'achat, cette stratégie de croissance, elle est basée sur des effets retours. C'est un peu une prophétie réalisatrice.
En fait, on
espère que ça va provoquer des retours, donc on va de nouveau dépenser, de nouveau des mesures qui vont coûter, en espérant que ça rapporte.
Oui, notre stratégie, elle est vraiment très claire. On peut faire des économies. Il y a des départements qui sont en dérapage budgétaire totaux. Et l'INAMI nous dit, là, il y a moyen vraiment de faire des économies sans faire mal aux vrais malades, sans faire mal aux citoyens qui sont en détresse. Donc vraiment, en éliminant les abus. Mais on ne doit pas non plus casser la machine économique. Donc on veille à ce qu'il y ait plus de pouvoir d'achat pour les gens qui travaillent, on veut récompenser les gens qui travaillent, donc plus de pouvoir d'achat grâce à une anticipation de la réforme fiscale, plus de compétitivité en diminuant les cotisations sociales et en permettant aux entreprises de créer de l'emploi, vraiment plus de mesures qui permettent aux entreprises de créer de l'emploi tout en diminuant les... C'est possible, on l'a déposé, c'est un document qu'on a déposé dans le cadre du débat.
Sauf que lors du budget de l'an dernier, la Cour des comptes, la Banque nationale, toutes les instituts ont expliqué que les effets retours qui avaient été dessinés dans le budget n'était pas réaliste.
Mais en fait, les effets retours, ils sont en train... Ils sont là, ils vont arriver. Le problème, c'est que les mesures, vous savez, la réforme du chômage, elle n'est pas encore, elle a été votée, mais elle prend en cours le 1er janvier. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse déjà dire qu'en 26 qu'il y a eu, qu'il y aura des effets retours, alors qu'on n'a même pas encore mis en œuvre les mesures. Donc, il faut aller un peu être raisonnable. Les effets retours sont là, ils sont chiffrés. Nous, on veut qu'il y en ait encore plus, parce qu'on estime que c'est aussi la croissance économique qu'il faut doper. C'est grâce à cela que l'on pourra aussi atteindre nos objectifs.
On a parlé d'une réduction des dépenses, on a parlé éventuellement de ce que vous évoquez comme stratégie de croissance avec des effets retours. Parlons aussi des recettes. Est-ce qu'à un moment donné, on va assez chercher les recettes de l'État ? Est-ce que l'outil fiscal fonctionne ? Le vice-premier socialiste flamand, Frank Vandenbroek, est à notre micro vendredi. Il estime que lui, c'est une piste sur laquelle on doit travailler.
Et de nouveau, en tant que socialiste, en tant qu'homme politique responsable, je crois qu'il faut se battre autant contre un certain profitariat fiscal que contre un certain profitariat social s'il existe.
C'est la question des sociétés de
management. Par exemple, les sociétés de management, c'est l'évasion fiscale, c'est même la fraude fiscale légalisée. Hein. On peut cacher un revenu qui en fait n'est pas un revenu d'un indépendant hein, qui prend des risques. Hein.
Est-ce qu'Hébert, on est prêt aussi à parler de recettes ?
Mais... on est prêt, en tout cas, à lutter contre les abus. Je vois que Franck veut aussi s'attaquer aux abus et aux fraudeurs. Moi, je suis également d'accord avec lui. On doit s'attaquer à tous les abuseurs, tous les fraudeurs dans ce pays, mais pas seulement au niveau fiscal, c'est aussi au niveau des allocations.
Mais l'assiette fiscale se réduit. Mais à un moment donné, les recettes de l'État...
En Belgique, on est dans le top 3 des pays les plus taxés, que ce soit sur le travail ou que ce soit sur le capital. On n'a même pas terminé de voter aujourd'hui la loi sur les plus-values, la taxe sur les plus-values. Donc on est le pays le plus taxé, on va encore ajouter cette taxe sur les plus-values. Et donc j'entends qu'au Parti Socialiste, on veut toujours taxer plus. Ça, c'est un refrain que je connais bien. Mais moi, je vous dis, on est dans le top 3 des pays les plus taxés. On
ne peut pas final, casser la machine économique. Est-ce qu'au final, l'outil fiscal fonctionne ? Ce n'est pas parce qu'on a un armada de mesures fiscales qu'on va chercher véritablement ces recettes.
Mais si,
qu'il n'y a pas tout simplement des niches qui permettent de
l'éviter. Je vais prendre un exemple. Trop d'impôts tue l'impôt. On a vu en tabac et en alcool, on est un pays qui taxe énormément. Résultat, aujourd'hui, eh bien, les citoyens belges, ils vont acheter leur tabac et leur alcool au Grand-Duché du Luxembourg ou dans les pays avoisinants. Parce qu'on a mis trop de taxes sur ces produits-là, et donc aujourd'hui, on a une fuite vers les pays avoisinants. C'est ça qu'on est en train de faire dans tous les départements.
Et donc une taxe sur les hautes fortunes.
On doit, par exemple, dire, pour moi, on doit, et on va proposer ça dans l'accord, dans le débat, c'est une diminution des accises sur le tabac, une diminution des accises sur l'alcool, sur certains produits de tabac, justement pour que les Belges n'aillent plus acheter leurs produits au Grand-Duché ou dans les pays avoisinants, parce qu'il y a moyen de récupérer des recettes simplement en ayant un niveau de taxation. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est la base de la science économique.
Ça veut dire qu'une taxe sur les grandes fortunes, comme l'évoquent justement Voreux, les socialistes flamands, et éventuellement même d'ailleurs les engagés, pour vous c'est impossible de remettre ça sur la table.
Je l'ai dit, on a déjà trop d'impôts dans ce pays, on est en train de faire une nouvelle taxe sur les plus-values.
Ça l'est acté.
Voilà,
est-ce qu'on en a besoin
mais donc, pour nous, on n'a pas besoin de nouvelles taxes.
Merci beaucoup David Clarinval d'avoir été notre invité ce matin et merci à vous Thomas Glisseux. À demain, il est 8h.